Ça marche? Je pense que je vais rester plutôt ce bord ici. J'ai déjà fait ma tête hier soir. C'était pas ma femme. C'était la headboard. J'étais en train de mettre le téléphone sur le chargeur et whack! En tout cas, gloire à Dieu. En tout cas. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un livre ou peut-être que vous avez lu le livre « Les sept habitudes des personnes qui réussissent dans la vie ». Est-ce que vous vous rappelez de ce livre-là? « The Seven Habits of Highly Successful People ». Peut-être que vous n'avez pas lu, c'est probablement 40 ou 50 ans de vieux. Je suis certain que c'était traduit en français. En tout cas, le deuxième chapitre, tu as entendu parler de ça? Pardon? Oui, c'est traduit en français. Le deuxième habitude, ça dit, commence pensant à la fin. Start with the end in mind. Pensant par la fin. Ça, c'est de sagesse. Quand est-ce qu'on va se lever chaque jour? On se lève, on va planifier notre journée et qu'est-ce qu'on veut faire pour cette journée? Qu'est-ce qu'on veut accomplir pour la journée? Ça fait du sens. Peut-être on va faire ça pour chaque semaine, pour chaque mois, pour chaque année. On veut accomplir quelque chose, mais il faut toujours penser à la fin. À la fin, c'est la vision. Si on va commencer un projet, il faut déjà penser à une vision du projet. Si on veut commencer à faire une vacance, il faut planifier la vacance. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on veut accomplir? Qu'est-ce qu'on veut voir? On va commencer toujours avec la fin. C'est la sagesse. C'est important de poursuivre de manière proactive cet avenir. Si nous avons une vision claire de notre destination, si la vision est claire, ça va nous donner les étapes nécessaires de faire des bonnes décisions, de nous mettre sur la bonne voie. Si on a une vision qui est claire, c'est critical pour faire des bonnes décisions parce que de cette manière, on va trouver la motivation de continuer. Si on a une vision qui est claire, tandis qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'objectif pour la journée, il n'y a pas d'objectif pour la semaine ou pour les mois ou pour les années. S'il n'y a pas de but, quelqu'un qui est sans but, c'est aimless. Aimless. Sans but. Jésus a parlé de ce type de personnes. Il a dit en Matthieu 9, 36, Ted, Matthieu 9, 36, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Les gens qui n'ont pas de but, pas de vision, sont languissantes et abattues. Alors, qu'est-ce que c'est notre destination finale? Qu'est-ce que c'est notre destination finale? C'est la mort. C'est la mort. Mais il n'y a personne qui veut parler de la mort aujourd'hui. Malheureusement, juste avant Noël, j'avais obligé de faire endormir mon chien. C'était une journée très triste. Et pendant Noël, on a parlé de ça, à la table, avec mes enfants. Et on a parlé de la mort de Copper, notre chien, et on a parlé de la mort. Et mes enfants m'arrêtaient. Arrête de parler de ça, papa! C'est morbide! C'est morbide! La mort, pour le monde, c'est morbide. Mais en réalité, il y a 150 000 personnes qui meurent chaque jour dans le monde. 150 000. Tout le monde va voir un tour. Tout le monde va voir un tour. C'est comme les taxes et les tarifs de Trump. On va tous payer ça. Dans les dernières deux semaines, dans la ville de Moncton, il y a trois enseignants qui étaient morts. Trois enseignants. Dans les dernières deux mois, il y avait quatre. Deux dans chaque district. On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. Mais, quand le tour de Siloam a tombé, le monde a demandé, c'est qui la faute? C'est qui la faute de des morts? Jésus dit, c'est pas la faute de personne. Mais, répondez-vous. Sois préparé. Ça, c'est la sagesse. Il faut regarder la fin en vue, en pleine vue. Parce qu'on va tous arriver à la même destination. C'est à cause du péché. À cause du péché, on va tous arriver à la même destination. Ce n'est pas facile de parler des sujets qui sont difficiles. Ce n'est pas facile. Et dans l'Église, on a évité trop de parler des choses qui sont dures. Ce matin, je me lève de bonne heure et Jésus m'a dit, Dieu m'a dit, toi qui prêches dans l'Église, toi une obligation, tu as un mandat de prêcher la vérité. Jésus nous a donné la grande commission. Allez, Matthieu 28, 19 et 20, Ted. Matthieu 28, 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. J'aimerais que, si tu as ta Bible, tu peux souligner ça. Enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ben, quel confort. Jésus est avec moi ce matin. Jésus est avec vous. Quand ce que vous enseignez, tout ce qui est prescrit dans la Bible, tous la vérité. Quand ce que tu prêchez tous, Jésus est avec vous jusqu'à la fin. Alors, on va retourner dans le livre des Actes. Actes 17. Actes 17. Actes 17, 30 et 31. Actes 17, 30 et 31. La dernière quatre fois que j'ai prêché, j'ai parlé de ce verset ici. Peut-être que vous l'avez mémorisé. Sinon, je vais le déparer. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tous lieux
qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour, il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine de le ressuscitant des morts. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole qui nous guide dans toute occasion de notre vie. Merci Seigneur que ta parole est vraie. Ça sort directement de ta bouche. Ça sort directement de tes pensées. Et tes enseignants sont pour nous. Et ils sont pour nous aujourd'hui. Ouvre notre cœur, Seigneur. Ouvre notre intelligence afin qu'on puisse écouter et voir qu'est-ce que toi, tu veux nous communiquer ce matin. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Parce qu'il a fixé un jour. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Dieu va juger le monde. Dieu va juger le monde par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a écrit là. Avec justice. Dieu est juste. N'oublie pas ça. Dieu va juger avec justice. Et on va regarder ça ce matin. Mais il y a un jugement qui s'en vient. Il y a la fin qui s'en vient. Mais le jugement n'est pas la fin. Le jugement, c'est le commencement de la fin. Parce que nous allons vivre, les chrétiens, on va vivre éternellement. Même les non-croyants vont vivre éternellement. Mais le jugement, c'est le commencement de la fin. Après la mort, vient le jugement. Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La plupart du monde pense que tout le monde va au ciel. Si tu demandais à tes enfants, tu demandes à tes amis, où est-ce que tu vas quand tu vas mourir? La plupart du monde va dire, oh, on va aller au ciel. Ou dans la terre. Mais il y a beaucoup de monde qui pense qu'il va au ciel. Ils pensent que ça, c'est la position défaut, default position. Tout le monde va au ciel, mais l'enfer est réservé pour les gens qui sont comme Hitler. C'est Hitler, Charles Manson, eux autres, ils vont à l'enfer. Mais pas nos amis. Pas moi. John Lennon a écrit, imagine there's no heaven. Imagine there's no heaven, there's no hell. Imagine all the people living for today. Tout le monde qui vit pour aujourd'hui. Imagine, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de ciel. Et il a écrit une chanson. Et cette chanson est devenue très populaire. C'est la manière que notre société pense. C'est la manière que notre culture pense aujourd'hui. Imagine, il n'y a pas de ciel. Il n'y a pas d'enfer. On va juste vivre pour aujourd'hui. Mais la Bible est claire, Romains 3, 23, Ted. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. C.S. Lewis sur la doctrine de l'enfer, on the doctrine of hell, il a écrit, there is no doctrine which I would more willingly remove from Christianity than this, if it is in my power. But it has the full support of Scripture. L'enseignement de la doctrine de l'enfer et de jugement a le support plein dans les Écritures. Et on va voir dans les Écritures. C'est pourquoi je dis à Ted à chaque fois, parce que j'ai beaucoup d'Écritures. Ce n'est pas mes pensées. Je veux dire de quoi? Je ne veux pas prêcher ça. Je préfère de prêcher l'amour de Dieu. Je préfère de prêcher quelque chose de plus positif. Mais Jésus nous a donné le mandat, une obligation de prêcher tout ce que j'ai commandé, tout ce que j'ai prescrit. There is no doctrine which I would more willingly remove from Christianity than this, it is if it was in my power. But it has the full support of Scripture, and especially of our Lord's own words. Surtout Jésus. Il y a ceux qui disent que Jésus a prêché plus sur l'enfer que n'importe d'autres sujets. It has always been held by Christendom, and it has the full support of reason. Le raisonnement. Nous sommes des gens qui pensent. Et si on pense de la justice de Dieu, si Dieu est juste, il faut qu'il punisse les criminels. Ce n'est pas juste pour un criminel de ne pas être puni. Si quelqu'un tue mon frère et le juge a dit, oh, il peut sortir, pour moi, ce n'est pas la justice. La justice, c'est il faut que cette personne-là soit punie pour ses crimes. C'est la justice. On est juste. Combien de fois les enfants ont dit, c'est pas juste, c'est pas juste. Tu peux pas faire ça. Tu peux traiter une personne comme ça, une autre. Ce n'est pas juste. Dieu est juste. Dieu a toute l'information sur tout chacun de nous. Dieu est le seul qui peut juger parce qu'il connaît tout. Et il y a le support 100% de la raison. Dieu a dit à Isaïe, viens à moi, viens raisonner avec moi. Come, let us reason together. Dieu, c'est un Dieu de raisonnement. C'est raisonnable de penser à l'avenir. C'est raisonnable. Parce que Dieu est un Dieu de raison. If a game is played, it must be possible to lose it. S'il y a un jeu à jouer, il faut que ce soit possible de le perdre. Imagine, Super Bowl Sunday, c'est la semaine prochaine. Imagine, s'il n'y a pas de péché dans le monde. S'il n'y a pas de péché dans le monde, tu regardes le match de football, il n'y a personne qui va faire une erreur. Mais ça, c'est plate, ça. Une équipe va faire un toucher, l'autre équipe va faire un toucher, l'autre équipe va faire un toucher, mais parce que tout le monde est parfait. If a game is played, it must be possible to lose it. Il va juger le monde selon la justice. Ça a l'air dans le monde qui est tombé. Le monde, ça a l'air qu'il n'y a pas de justice dans le monde. Moi, je travaille avec des jeunes.
qui n'a pas vraiment une chance dans la vie. Il n'y a pas de parents. Ça a l'air qu'il n'y a pas de justice. Ça a l'air, quand on va regarder les matchs de football, c'est des millionnaires avec des talents incroyables. Qu'il n'y a pas de justice. Il y a des gens qui sont pauvres. Ça a l'air qu'il n'y a pas de justice dans le monde. Il y a des mondes qui sont intelligents. Il y a des mondes qui sont riches. Il y a des mondes qui sont beaux et belles. Il y a d'autres personnes qui ont une belle personnalité. Tu ne veux pas, you don't want to win Miss Congeniality in a beauty contest. En tout cas, ça c'est juste. Mais un jour, sur cette journée-là, il va avoir la justice. Il va avoir la justice. So, quand est-ce que le jour du jugement? Quand est-ce que ça va venir? Parce que le monde a dit, Jésus revient. Ils ont dit ça dans le Nouveau Testament. Jésus revient. Mais quand est-ce qu'il va revenir? Quand est-ce que Jésus revient, ça c'est le commencement. Jésus, il va retourner un jour. On ne sait pas pourquoi. Peut-être aujourd'hui. Peut-être en 50 ans. Et il va régner sur cette terre pour 1000 ans. Quand ce qu'il vient, il va régner pour 1000 ans. C'est ça que la Bible dit, Roland? C'est ça que ça dit? C'est ça que ça dit. Il va régner pour 1000 ans. Après les 1000 ans, les ciels et la terre va être tout destroyé. Comment on dit ça en français? Destroyed. Détruit. Tu vas être tout détruit. Et toutes les œuvres de ce monde vont être consumées, exposées. 2 Pierre 3:10. On va lire ça. 2 Pierre 3:10. Le jour du Seigneur, quand ce que Jésus revient, viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Les œuvres, le monde qui a mis leur confiance dans les œuvres, va être consumé. Apocalypse 20. Si on va parler du jugement, c'est sûr, il faut qu'on parle dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 20, 11 à 15. Ces gens qui avaient une vision, c'est la vision de Jésus-Christ. C'est la révélation de Jésus-Christ. Au commencement du livre d'Apocalypse, ça dit la révélation de Jésus-Christ. Et c'est Jean qui parle, Jean qui avait une vision. Puis je vis une grande trône blanc et celui qui était assis dessous. La terre et les ciels s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Ça, c'est la deuxième fois qu'il a dit ça. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. L'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans ce livre de vie, fut jeté dans le temps de feu. Ouh!
On ne veut pas lire ça. Wow! Ça, c'est pas... Ça, c'est écrit dans la Bible. Je pense qu'on a besoin de prier. Ouf, Seigneur! Ça, c'est un enseignement qui est difficile. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Toi, tu as dit dans Matthieu 9, 37 que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La moisson est grande. Seigneur, ouvre notre intelligence. Ouvre nos yeux, Seigneur. Seigneur, c'est raisonnable de parler de Jésus. C'est raisonnable de parler de la fin. C'est raisonnable de parler de la justice de Dieu. C'est raisonnable de parler du jugement. C'est raisonnable. Seigneur, donne-nous l'audacité de parler de toi avec gentillesse, avec respect, mais avec audacité. Amen. Il y a un jugement qui va se passer tout à la même temps, tout à la même place. Le jugement sera, ça va être à la fin de la millénium. Il va y avoir à la fin de la millénium, à la fin de la mille ans, il va y avoir une rébellion. Et le résultat de cette rébellion va être la victoire finale de Christ. Christ va régner victorieux. Le jugement final nous montre un portrait de Dieu, un Dieu qui est juste, un Dieu qui est saint, un Dieu qui est sérieux, un Dieu qui est jaloux. Et il va montrer sa justice dans la vie de chaque personne qui a jamais vu. Maintenant dans la terre, il y a 8,2 milliards de personnes aujourd'hui. Mais combien de monde a jamais vécu dans le monde? Des milliards et les milliards. Et sur cette journée, il va y avoir un jugement pour tout le monde. Et Dieu connaît tout. Dieu est omniscient. Dieu connaît toutes les choses qu'on a faites, toutes les paroles qu'on a dites et toutes les choses qu'on n'a pas faites. Luc 12, 2 et 3. Luc 12, 12, 2 et 3. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans les lumières, et tout ce que vous avez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. C'est Jésus lui-même qui va juger les vivants et les morts. Jésus lui-même. Et il nous connaît. Il nous connaît. Deuxième Timothée 4, 1 à 5. Deuxième Timothée 4, 1 à 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la déménageaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de doctrines selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les faibles. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Aujourd'hui, le monde ne veut pas entendre ces choses. Ça, c'est un nouveau mot que j'ai appris. Des mangeaisons. Des mangeaisons. Itching ears. Il veut juste entendre des choses. Pas des choses difficiles. Pas des doctrines dans la Bible. Juste des choses qui sont faciles à digérer. Des enseignements faciles à digérer. C'est facile de dire que Dieu est amour. Et Dieu est amour. Mais Dieu est d'autres choses. Dieu est un Dieu de justice aussi. Je me rappelle, il y a un politicien qui a dit, « Mon Dieu ne fera pas ça. Mon Dieu ne fera pas ça. » Mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. C'est le Dieu qu'elle avait inventé. Et qu'est-ce que c'est le deuxième commandement? Le premier commandement, n'aie pas d'autre Dieu. Ne fais pas d'idole. Si tu fais une image de Dieu dans ta tête, ça c'est une idole. C'est une idole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Jésus, à la fin, c'est lui qui va juger les vivants et les morts. Et tout ce qui en mort à la fin, on va tous être devant Christ pour le jugement. Tout le monde, même nous, les croyants, il va nous juger aussi. On va être jugés. Matthieu 25, 31 et 32. Jésus, c'est les paroles de Jésus. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les bœufs. Dans ce jour-là, on est devant Jésus, le juge. Il va dans la foule. Il va commencer à dire, toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Toi, là. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Il va commencer à mettre des brebis ensemble. Et il va mettre des bœufs ensemble. C'est ça qu'il dit. Il y a deux groupes. Il y a un groupe qui a été racheté et l'autre groupe n'est pas racheté. Il y a un groupe qui est sauvé, il y a un groupe qui est perdu. Dans l'Apocalypse, ça dit que les livres seront ouverts. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, mais des livres furent ouverts. Jean ne dit pas c'est quoi les livres. Ça se peut que c'est le livre de la loi, mais c'est des livres qui ont été ouverts. Des livres. Peut-être le livre de la loi. Mais c'est, ça a l'air, avec le contexte, que les livres contiennent les œuvres de chaque personne. Et un livre ouvert. Celui qui est les morts furent jugés
selon leurs œuvres, après ce qui est écrit dans ces livres. Sur le monde, les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Ces livres, dans la comptabilité de tout ce que le monde a fait, tout ce que le monde n'a pas fait, toutes nos pensées, toutes les choses qu'on a pensées, toutes les choses qu'on a aimées, toutes les choses qu'on a haïes, toutes les grudges qu'on a enlevées quelqu'un, contre quelqu'un, toutes les gossips qu'on a fait, tous les mots qu'on a fait, les livres seront ouverts et tout va être exposé. Il n'y a rien qui sera caché. Et si on se sent coupable, parce qu'on sait que c'est vrai, parce que c'est juste. Dieu est juste. Les livres vont voir l'évaluation objective de Dieu pour chaque personne. Dieu qui est parfait, c'est pas l'opinion de quelqu'un. C'est objective reality. Ce n'est pas subjectif. Matthieu 12, 36. Je vous le dis, c'est Jésus qui parle. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Toute chose qu'on dit, le jour du jugement, on va se rendre compte de toutes les vaines mots qu'on a dit. Ecclésiaste 12, 14. Car Dieu aimera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'est clair. Tout le monde va être jugé selon leurs œuvres. Selon les œuvres, on va juger selon nos œuvres. Romains 2, 6, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Ça, c'est Romains 2, 6. Romains 2, 11, car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Peu importe notre position dans la vie. Peu importe notre richesse. Peu importe où est-ce qu'on a grandi. Peu importe l'avantage qu'on avait dans la vie. Tout ça va être enlevé. Toutes nos œuvres vont être consumées. Toute espérance qu'on avait dans cette vie va périr. Et le résultat de ces livres qui étaient ouverts, c'est le jugement de Dieu. Et il n'y a pas de, il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains 3, 10. Il n'y a point de juste, pas même un seul. On va juger selon qu'est-ce qu'on a fait, les œuvres qu'on a fait. Il n'y a personne qui va rejeter parce qu'il n'a pas accepté Jésus-Christ. Il n'y a personne qui va rejeter parce qu'il n'est jamais devenu un chrétien. La Bible dit qu'il va être condamné par leurs œuvres. Mais il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Qu'est-ce qui est arrivé avec ces gens-là? Tout le monde va juger selon leurs œuvres. Dieu est juste. Romains 1, 18, 20. Il dit qu'il n'y a personne qui va devant lui, qui va avoir une excuse. Il n'y a personne. Dieu est juste. Romains 1, 18 à 20. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement
la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la fondation du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Quand on voit la nature de l'homme, la création de l'homme, ça crie, ça chante, ça parle, il y a un Dieu. Il n'y a pas d'excuse. L'homme n'aura pas d'excuse. Il va juger par ses œuvres. Jésus nous a donné tout ce dont on a besoin. De rester devant lui avec confiance dans le jour du jugement. Jésus a un plan qui est trouvé dans l'Évangile. Et Jésus est notre substitut. C'est Jésus qui est notre juge. Et la mort de Jésus sur la croix, c'est lui qui est le substitut pour nous. Alors, pour les croyants, tout le monde va juger selon les œuvres. Nous autres, est-ce qu'on va juger selon les œuvres? Oui. Oui, on va juger. On va juger selon les œuvres, mais pas les nôtres. Pas les nôtres. On va juger selon les œuvres de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? C'est lui le substitut. C'est Jésus qui a tout payé. Tout le monde va juger selon leurs œuvres, même des chrétiens. Mais pour nous, les œuvres, c'est les œuvres de Jésus. S'il y a quelqu'un qui n'a pas abandonné leur vie à Jésus, il va juger selon leurs œuvres. Mais si quelqu'un a mis leur confiance en Dieu et ils se repentent, ils mettent leur foi en Jésus, il va juger selon les yeux de Jésus. La nature de notre salut, c'est quand on va rester devant Dieu pour le juger. Quand on va rester devant Jésus, tout ce qui croit en lui, on va être caché. On est caché en lui. Le jour de jugement, on va être caché. On est caché en Jésus. Nos œuvres qu'on a faites sur la terre, les péchés qu'on a commis, ils sont sous le sang de Jésus. Ça, c'est la nature incroyable, la merveilleuse nature de notre salut, qu'on est caché en Jésus-Christ. J'ai juste deux autres pages. Correct? Right. So, si on est jugé par nos œuvres, ça veut dire que notre récompense et notre punition, c'est selon nos œuvres aussi. Luc 12, 47. Luc 12, 47. 47 et 48. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Sur le châtiment va être selon la justice de Dieu. Si quelqu'un mérite beaucoup de châtiments, il va recevoir beaucoup de punitions. Matthieu 11, 22. Avec les trois villes, Chorazin, Bethsaïda et Capernaum, qui ont rejeté Jésus. Jésus qui a prêché, qui a enseigné dans la région de la mer de Galilée, en le nord, la côte nord de la mer de Galilée. Et les trois villes ont rejeté les enseignements de Jésus. Matthieu 11, 22. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyre et Sidon seront traités moins rigoureuses que vous. Tyre et Sidon. Et même pour Capernaum, il dit que Sodome et Gomorrhe va être jugé, traité moins rigoureux que vous. Ce passage suggère qu'il y a divers degrés de châtiment à l'enfer pour les impies. La justice de Dieu n'est pas donnée avec un marteau. Quack! One size fits all. Non. La justice de Dieu est faite avec précision. Il va donner tous selon qu'est-ce qu'ils méritent, qu'est-ce qu'ils ont fait. Tailor-made for every single human being. Mais pour les croyants, qu'est-ce qui arrive avec nous? Mais il y a un autre livre. Il y avait un livre de vie. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Il y a plusieurs livres, mais il y a un livre de vie. Si on est des chrétiens, si vous êtes des chrétiens aujourd'hui, si vous avez accepté Jésus comme sauveur, votre nom est écrit dans ce livre ici. Amen. Oh, tout ce qui meurt avec leur nom dans le livre de vie, immédiatement va être avec Jésus. Immédiatement. Le voleur sur la croix, Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Aujourd'hui, en paradis. Aujourd'hui. Ça, c'est la confiance que nous avons. Si Jésus revient aujourd'hui, on ne passera pas par la mort. On va être avec lui immédiatement, dans un clin d'œil. Dans un instant, on va être avec lui. Il va nous donner un corps immortel, un corps spirituel, et on va être avec lui tout de suite. On va recevoir notre corps de résurrection. En ce jour-là, en le jour de jugement, il n'y aura pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Le jour de jugement, c'est à la fin de la 1000 ans. Mais qu'est-ce qui arrive avec les gens qui meurent avant? Ils sont toujours avec Jésus au paradis. Quand le jour arrive, il n'y a pas de surprise, il n'y aura pas de surprise. Quand le livre de vie est ouvert, ça va proclamer l'œuvre de Jésus. Et tous les noms qui étaient écrits là-dedans, c'est les gens qui ont mis leur confiance en Dieu. Tous les gens qui, avec leur nom, dans le livre, would have been condemned. Mais, à cause de l'œuvre de Jésus, à cause de ses œuvres, on n'est pas sauvé. On n'est pas sauvé par nos œuvres. On est sauvé par les œuvres de Jésus. C'est la grâce de Dieu. Mais nous serons jugés selon nos œuvres. On est jugé selon nos œuvres. mais on n'est pas sauvé selon nos œuvres. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire encore. C'est un sujet qui à travers la Bible. Si on va ouvrir nos yeux, c'est dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament, c'est dans les enseignements de Jésus, c'est dans les enseignements des apôtres. On va continuer une autre fois. Mais il faut commencer aujourd'hui, pensant à la fin. Begin with the end in mind. Pensons à la fin. David écrit dans les psaumes 90 et 12. Ted. Psaume 90 et 12. Enseigne-nous de bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous de bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est la sagesse de connaître Jésus, de mettre notre confiance en lui. Zacharie, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Tes amis ne suivent pas Jésus, mais toi, suis Jésus. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. On n'est pas sauvé par nos œuvres. On est sauvé par les œuvres de Jésus. À Jésus soit la gloire. À Jésus soit toute l'adoration. Amen. Amen. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. Bonne journée.